Diderot, suite de l'entretien, interlocuteur, Mademoiselle de Lespinasse et Bordeux. Sur les 2 heures, le docteur revint. D'Alembert était allé au dîner dehors et le docteur se trouva en tête-à-tête avec Mademoiselle de Lespinasse. On servit, ils parlèrent de choses assez indifférentes jusqu'au dessert, mais lorsque les domestiques furent éloignés, Mademoiselle de Lespinasse dit au docteur « Allons, docteur, buvez un verre de Malaga, et vous me répondrez ensuite à une question qui m'a passé 100 fois par la tête et que je n'oserais faire qu'à vous. Il est excellent, ce Malaga. Et votre question ? Que pensez-vous du mélange des espèces ? Oh, ma foi, la question est bonne aussi. Oh, je pense que les hommes ont mis beaucoup d'importance à l'acte de la génération et qu'ils ont eu raison, mais je suis mécontent de leur loi, tant civile que religieuse. Et qu'y trouvez-vous à redire ? Qu'on les a faites sans équité, sans but et sans aucun égard à la nature des choses et à l'utilité publique. Tâchez de vous expliquer. Oh, c'est mon dessein, mais attendez. Oui, j'ai encore une bonne heure à vous donner. J'irai vite et cela nous suffira. Nous sommes seuls, vous n'êtes pas une bégueule. Vous n'imaginerez pas que je veuille manquer au respect que je vous dois, et quel que soit le jugement que vous portiez de mes idées, j'espère de mon côté que vous n'en conclurez rien contre l'honnêteté de mes mœurs. Mais oui, très assurément, mais votre début me chiffonne. En ce cas, changeons de propos. Non, allez votre train. Un de vos amis qui vous cherchait des époux, à moi et à mes 2 sœurs, donnait un sylphe à la cadette et un grand ange d'énonciation à l'aîné et à moi un disciple de Diogène. Il nous connaissait bien toutes 3. Cependant, docteur, de la gaz, un peu de gaz. Cela, ça va sans dire, autant que le sujet et mon état t'en comportent. Bon, cela ne vous mettra pas en frais. Mais voilà votre café. Prenez votre café. Votre question est de physique, de morale et de poétique. De poétique. Oui, sans doute, l'art de créer des êtres qui ne sont pas à l'imitation de ceux qui sont est de la vraie poésie. Cette fois-ci, au lieu d'Hippocrate, vous me permettrez donc de citer Horace. Ce poète ou faiseur dit quelque part « Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci ». Le mérite suprême est d'avoir réuni l'agréable à l'utile. La perfection consiste à concilier ces 2 points. L'action agréable et utile doit occuper la première place dans l'ordre esthétique. Nous ne pouvons refuser la seconde à l'utile. La troisième sera pour l'agréable et nous relèguerons au rang infime celle qui ne rend ni plaisir ni profit. Jusque-là, je puis être de votre avis sans rougir. Mais où cela nous mènera-t-il ? Vous allez voir. Mademoiselle, pourriez-vous m'apprendre quel profit ou quel plaisir la chasteté et la continence rigoureuse rendent soit à l'individu qui les pratique, soit à la société ? Ma foi, aucun. Donc, en dépit des magnifiques éloges que le fanatisme leur a prodigués, en dépit des lois civiles qui les protègent, nous les rayerons du catalogue des vertus et nous conviendrons qu'il n'y a rien de si puéril, de si ridicule et de si absurde, de si nuisible, de si méprisable, rien de pire à l'exception du mal positif que ces 2 rares qualités. On peut accorder cela. Prenez-y garde, je vous en préviens, tout à l'heure vous reculerez. Nous ne reculons jamais. Et les actions solitaires ? Eh bien, elles rendent du moins du plaisir à l'individu, et notre principe est faux. Quoi, docteur ? Oui, mademoiselle, oui, et par la raison qu'elles sont aussi indifférentes, et qu'elles ne sont pas aussi stériles. C'est un besoin, et quand on n'y serait pas sollicité par le besoin, c'est toujours une chose douce. Je veux qu'on se porte bien, je le veux absolument, entendez-vous? Je blâme tout excès, mais dans un état de société tel que le nôtre, il y a 100 considérations raisonnables pour une, sans compter le tempérament et les suites funestes d'une continence rigoureuse, surtout pour les jeunes personnes. Le peu de fortune, la crainte parmi les hommes d'un repentir cuisant, chez les femmes celle du déshonneur, qui réduisent une malheureuse créature qui périt de langueur et d'ennui, un pauvre diable qui ne sait à qui s'adresser, à s'expédier à la façon du cynique. Caton, qui disait à un jeune homme sur le point d'entrer chez une courtisane, « Courage, mon fils !» Lui tiendrait-il le même propos aujourd'hui ? S'il le surprenait, au contraire, seul, en flagrant délit, n'ajouterait-il pas « Cela est mieux que de corrompre la femme d'autrui ou que d'exposer son honneur et sa santé. » Et quoi ? Parce que les circonstances me privent du plus grand bonheur qu'on puisse imaginer, celui de confondre mes sens avec l'essence, mon ivresse avec l'ivresse, mon âme avec l'âme d'une compagne que mon cœur se choisirait, et de me reproduire en elle et avec elle, parce que je puis consacrer mon action par le sceau de l'utilité, je m'interdirai un instant nécessaire et délicieux. On se fait saigner dans la pléthore, et qu'importe la nature de l'humeur surabondante et sa couleur et la manière de s'en délivrer. Elle est tout aussi superflue dans une de ses indispositions que dans l'autre. Et si, repompée de ses réservoirs, distribuée dans toute la machine, elle s'évacue par une autre voie plus longue, plus pénible et dangereuse, en sera-t-elle moins perdue ? La nature ne souffre rien d'inutile. Et comment serais-je coupable de l'aider lorsqu'elle appelle mon secours par les symptômes les moins équivoques ? Ne la provoquons jamais, me répéterons-lui la main dans l'occasion. Je ne vois au refus et à l'oisiveté que de la sottise et du plaisir manqué. Vivez sobre, me dira-t-on, excédez-vous de fatigue. Je vous entends. Que je me prive d'un plaisir et que je me donne de la peine pour éloigner un autre plaisir. Bien imaginé ! Voilà une doctrine qui n'est pas bonne à prêcher aux enfants, ni aux autres. Cependant, me permettez-vous une supposition ? Vous avez une fille sage, trop sage, innocente, trop innocente. Elle est dans l'âge où le tempérament se développe. Sa tête s'embarrasse, la nature ne la secourt point. Vous m'appelez. Je m'aperçois tout à coup que tous les symptômes qui nous effraient naissent de la surabondance et de la rétention du fluide séminal. Je vous avertis qu'elle est menacée d'une folie qu'il est facile de prévenir et qui quelquefois est impossible à guérir. Alors je vous en indique le remède. Que ferez-vous ? Mais vous parlez vrai, je crois. Oh, bon, mais ce cas n'arrive point. Détrompez-vous. Il n'est pas rare. Et il serait fréquent si la licence de l'humeur n'y obviait. Quoi qu'il en soit, ce serait fouler aux pieds toute décence, attirer sur soi les soupçons les plus odieux et commettre un crime de lèse société que de divulguer ses principes. Vous rêvez. Oui, je balançais à vous demander s'il vous était jamais arrivé d'avoir une pareille confidence à faire à des mères. Assurément. Et quel parti ces mères ont-elles pris ? Toutes, sans exception, le bon parti, le parti sensé. Je n'ôterai pas mon chapeau dans la rue à l'homme suspecté de pratiquer ma doctrine. Il me suffirait qu'on l'appelât un infâme. Mais nous causons sans témoins et sans conséquences. Et je vous dirai de ma philosophie ce que Diogène, tout nu, disait au jeune et pudique Athénien contre lequel il se préparait à lutter. « Mon fils, ne crains rien, je ne suis pas si méchant que celui-là. »« Oh, docteur, je vous vois arriver et je gage. »« Oh, je ne gage pas, vous gagneriez. » Oui, mademoiselle, c'est mon avis. Mais comment? Soit qu'on se renferme dans l'enceinte de son espèce, soit qu'on en sorte. Il est vrai. Mais vous êtes monstrueux. Mais ce n'est pas moi, c'est ou la nature ou la société. Écoutez, mademoiselle, je ne m'en laisse point imposer par des mots, et je m'explique d'autant plus librement que je suis net et que la pureté de mes mœurs ne laisse prise à aucun côté. Je vous demanderai donc de deux actions également restreintes à la volupté, qui ne peuvent rendre que du plaisir sans utilité, mais dont l'une n'en rend qu'à celui qui la fait et l'autre le partage avec un être semblable, mâle ou femelle. Car le sexe ici, ni même l'emploi du sexe, n'y fait rien. En faveur de laquelle le sens commun prononcera-t-il? Ces questions sont trop sublimes pour moi. Ah! Après avoir été un homme pendant 4 minutes, voilà que vous reprenez votre cornette et vos cotillons, et que vous redevenez femme. À la bonne heure. Eh bien, il faut vous traiter comme tel. Voilà qui est fait. On ne dit plus mot de Madame de Barry. Vous voyez, tout s'arrange. On croyait que la cour allait être bouleversée. Le maître a fait en homme sensé. Omne tulit punctum, il a gardé la femme qui lui fait plaisir et le ministre qui lui est utile. Mais vous ne m'écoutez pas, où en êtes-vous? Ben, j'en suis à ces combinaisons qui me semblent toutes contre nature. Mais tout ce qui est ne peut être ni contre nature ni hors de nature. Je n'en accepte pas même la chasteté et la continence volontaire, qui seraient les premiers des crimes contre nature si l'on pouvait pécher contre nature, et les premiers des crimes contre les lois sociales d'un pays où l'on pèserait les actions dans une autre balance que celle du fanatisme et du préjugé. Mais je reviens sur vos maudits syllogismes, et je n'y vois point de milieu. Il faut alors tout nier ou tout accorder. Mais tenez, docteur. Le plus honnête et le plus court est de sauter par-dessus le bourbier et d'en revenir à ma première question. Que pensez-vous du mélange des espèces? Il n'y a point à sauter pour cela, nous y étions. Votre question est-elle de physique ou de morale? Oh, de physique, de physique. Tant mieux, la question de morale marchait la première et vous la décidez. Bon, ainsi donc. D'accord, sans doute c'est un préliminaire, mais je voudrais que vous séparassiez la cause de l'effet. Laissons la vilaine cause de côté. C'est m'ordonner de commencer par la fin. Mais puisque vous le voulez, je vous dirai que, grâce à notre pusillanimité, à nos répugnances, à nos lois, à nos préjugés, il y a très peu d'expériences faites. Qu'on ignore quelles seraient les copulations tout à fait infructueuses, les cas où l'utile se réunirait à l'agréable, quelle sorte d'espèce on se pourrait promettre de tentatives vaines et suivies, si les faunes sont réelles ou fabuleux, si l'on ne multiplierait pas en 100 façons diverses les races de mulets, et si celles que nous connaissons sont vraiment stériles. Mais un fait singulier, qu'une infinité de gens instruits vous attesteront comme vrai et qui est faux, c'est qu'ils ont vu dans la basse-cour de l'archiduc un infâme lapin qui servait de coq à une vingtaine de poules infâmes qui s'en accommodaient. Ils ajouteront qu'on leur a montré des poulets couverts de poils et provenus de cette bestialité. Croyez-vous qu'on s'est moqué d'eux? Mais qu'entendez-vous par des tentatives suivies? Non, j'entends que la circulation des êtres est graduelle, que les assimilations des êtres veulent être préparées et que, pour réussir dans ces sortes d'expériences, il faudrait s'y prendre de loin et travailler d'abord à rapprocher les animaux par un régime analogue. On réduira difficilement un homme à brouter, mais non à prendre souvent du lait de chèvre. Et l'on amènera facilement la chèvre à se nourrir de pain. J'ai choisi la chèvre par des considérations qui me sont particulières. Et ces considérations, moi, vous êtes bien hardi. C'est que nous en tirons une race vigoureuse, intelligente, infatigable et véloce, dont nous ferions d'excellents domestiques. Fort bien, docteur. Il me semble déjà que je vois derrière la voiture de vos duchesses 5 à 6 grands insolents chèvre-pieds, et cela me réjouit. C'est que nous ne dégraderions plus nos frères en les assujettissant à des fonctions indignes d'eux et de nous. Encore mieux. C'est que nous ne réduirions plus l'homme dans nos colonies à la condition de la bête de somme. Oh, vite, vite, docteur, mettez-vous à la besogne et faites-nous des chèvre-pieds. Et vous le permettrez sans scrupule. Mais arrêtez, il m'en vient un. Vos chèvre-pieds seraient des frais dissolus. Oh, voilà, je ne vous les garantis pas bien moraux. Mais il n'y aura plus de sûreté pour les femmes honnêtes. Ils multiplieront sans fin à la longue, il faudra les assommer ou leur obéir. Oh, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Tenez-vous en repos. Et la question de leur baptême ferait un beau charivari en Sorbonne. Avez-vous vu au jardin du roi, sous une cage de verre, un orang-outan qui a l'air d'un Saint-Jean qui prêche au désert? Oui, je l'ai vu. Le cardinal de Polignac lui disait un jour « Parle et je te baptise ». Adieu donc, docteur. Ne nous délaissez pas des siècles comme vous faites et pensez quelquefois que je vous aime à la folie. Oh, si l'on savait tout ce que vous m'avez conté d'horreur. Je suis bien sûr que vous vous enterrez. Oh, ne vous y fiez pas, je n'écoute que pour le plaisir de redire. Mais encore un mot, et je n'y reviens de ma vie. Qu'est-ce? Ces goûts abominables, d'où viennent-ils? Oh, partout, d'une pauvreté d'organisation dans les jeunes gens et de la corruption de la tête dans les vieillards, de l'attrait de la beauté dans Athènes, de la disette des femmes dans Rome, et de la crainte de la Vérole à Paris. Adieu, adieu.